Europe 1.
Europe 1, il est 6h. Europe 1, bonjour.
5h, 7h.
Alexandre Lemaire, Omblin Roche.
D'abord, la formation de la nuit. Des drones ont été abattus dans le centre de l'Iran. Tôt ce matin, il pourrait s'agir de la riposte israélienne 5 jours après l'attaque de Téhéran contre son territoire. Washington confirme. Europe 1 en direct des États-Unis dans un instant. Tu casses, tu payes, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter. Les mots de Gabriel Attal en déplacement hier à Viry-Châtillon. Le Premier ministre martèle sa doctrine sur l'autorité à l'école. Le point sur les mesures envisagées par Gabriel Attal dans un instant. Dans l'actualité également, l'espoir européen qui se poursuit pour les Marseillais. L'OM qualifié pour les demi-finales de la Ligue Europa après sa victoire 1-0 face au Benfica Lisbonne dans un stade Vélodrome en fusion. Et puis vous avez toujours rêvé d'être un cordon bleu d'exception. Apprenez à cuisiner les plats servis au Kennedy ou à la Reine d'Angleterre avec un recueil de menus présidentiels mis en vente dans quelques semaines. Reportage à suivre. Le journal de 6h, Nina Pavan. Bonjour Nina.
Bonjour Alexandre, bonjour à tous. C'est l'information de la nuit, des frappes israéliennes sur le centre de l'Iran. Plusieurs explosions rapportées tôt ce matin dans la province de l'Ispahan, connue pour abriter l'installation nucléaire de Natanz. Téhéran signale qu'aucun dégât majeur n'a été identifié après avoir abattu plusieurs drones. Ces explosions font suite à des tirs de missiles israéliens contre l'État hébreu il y a 5 jours. Aviva Fried, vous êtes la correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Israël ne confirme pas, mais Washington si. Et une escalade pourrait être irréversible alors que l'Iran avait prévenu elle ne tolérera pas d'attaque contre son territoire.
Oui, alors d'après les premières informations, les Israéliens auraient frappé aux abords d'une base militaire près de la ville d'Ispahan, vous l'avez dit. C'est à environ 350 km au sud de la capitale Téhéran. Une base où se trouvent des radars et des avions de combat. En revanche, aucun site nucléaire ne faisait partie des cibles. Sur les vidéos que se sont procurées les médias américains, on voit clairement des flashs lumineux dans le ciel d'Ispahan. Alors ces représailles, Israël les avait promises et le ministre iranien des Affaires étrangères, interrogé par CNN plus tôt dans la journée, avait mis en garde de l'État hébreu.
Si le régime israélien agit contre les intérêts de l'Iran, notre prochaine réponse sera immédiate et à un niveau maximum.
La question, elle est désormais de savoir quelle est l'ampleur de cette frappe israélienne. Du côté américain, on estime qu'elle était plutôt mesurée. Les Israéliens avaient d'ailleurs évoqué eux-mêmes la possibilité d'une attaque limitée. Et à l'heure actuelle, les médias iraniens semblent eux aussi minimiser cette attaque en se moquant presque des moyens déployés par Israël. Mais la situation reste évidemment explosive dans la région.
Aviva Fried en direct des États-Unis pour Europe 1 et conséquence de ces frappes, le cours du pétrole a immédiatement bondi de 3 points. Plus d'informations à venir dans le journal de 6h30 sur Europe 1.
Israël qui poursuit ses frappes sur la bande de Gaza et Jean-Luc Mélenchon qui, malgré l'interdiction de sa conférence hier soir à Lille, a tout de même tenu un meeting non autorisé en pleine rue sur la question palestinienne.
Le leader insoumis accompagné par sa colistière pour les élections européennes de juin prochain, la militante pro-palestinienne Rima Hassan, Lionel Gougelot, l'objectif pour Jean-Luc Mélenchon était de montrer qu'il est prêt à tout pour mener sa campagne sur la situation à Gaza.
Une estrade improvisée, une sono installée à la hâte sur cette petite place au cœur de ce quartier populaire lillois. Jean-Luc Mélenchon, micro à la main, fustige un abus de pouvoir de République bananière qui l'oblige à tenir ce meeting en plein air.
Nous interdire, c'est un franchissement de seuil incroyable de violence politique.
Discours devant un petit millier de sympathisants particulièrement remontés.
Là, on essaye de créer un précédent très dangereux pour notre démocratie et pour les libertés publiques. Et c'est pour ça qu'on se mobilise à fond.
Le gouvernement français, de toute façon, à l'heure actuelle, il est aux mains d'Israël. Tout est aux mains d'Israël.
Un gouvernement accusé par Jean-Luc Mélenchon de vouloir empêcher une libre parole en faveur de la paix.
Alors nous parlons, des gens bombardent des hôpitaux. Et si nous sommes ici, c'est pour protester contre ce massacre. Crier, cessez le feu.
Car demander d'arrêter le massacre, ça n'est pas être antisémite, assure Théophile.
Qu'on nous taxe d'antisémitisme, etc., etc., ça met en colère. Ça met en colère et il y a un petit acharnement là-dessus qui est indigne.
40 minutes de discours et aucun débordement constaté. Une façon sans doute de démontrer que les interdictions n'avaient pas lieu d'être. Lille, Lionel Gougelot, Europe 1.
Il est 6h04 sur Europe 1. Dans l'actualité également, la doctrine Attal sur l'autorité à l'école. Elle s'affine et elle s'affirme.
Tu casses, tu répares, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter. Déclaration du Premier ministre hier en préambule d'une série d'annonces pour renforcer la discipline à l'école. Il était en déplacement à Viry-Châtillon dans l'Essonne où Chemseddine a été battu à mort au début du mois. Le chef du gouvernement a donc lancé plusieurs pistes, Arthur Delaborde.
Le Premier ministre lance des pistes plus ou moins concrètes. La seule véritable proposition nouvelle, c'est le retrait de points sur le brevet ou le bac pour les élèves les plus perturbateurs avec mention sur le dossier Parcoursup. Gabriel Attal veut aussi instaurer un conseil de discipline dès le primaire, imposer des travaux d'intérêt général aux parents défaillants. Il souhaite faire signer un contrat avec l'établissement scolaire qui pourrait conduire à une amende en cas de non-respect des obligations. Il plaide également pour la création de travaux d'intérêt éducatif, c'est-à-dire des travaux d'intérêt général pour les mineurs de moins de 15 ans. Pour le reste, cela va d'une meilleure régulation des écrans et des réseaux sociaux à l'obligation de se lever quand le professeur rentre en classe. Gabriel Attal met aussi sur la table de nouvelles peines pour les mineurs, des comparutions immédiates dès 16 ans et se dit prêt à ouvrir le débat sur des atténuations à l'excuse de minorité devant la justice. Le chantier s'annonce donc colossal. Une première copie sera rendue à l'issue de 8 semaines de concertation avec tous les acteurs et les forces politiques.
Et Gabriel Attal qui a également dénoncé hier soir sur BFM un entrisme islamiste prônant les principes de la charia, notamment dans nos écoles. Ce chiffre qu'Europe 1 vous révèle ce matin, le Rassemblement National a 29% d'intention de vote, selon la balise Opinionway pour Europe 1, CNews et le Journal du Dimanche. La liste de la majorité menée par Valérie Ayé est à 19%. En football, l'OM peut encore rêver, les Marseillais qualifiés pour les demi-finales de la Ligue Europa après leur victoire hier soir face au Benfica Lisbonne, score finale 1-0, mais un match qui s'est joué au tir au but, 4-2 en faveur des Olympiens.
Enfin, avis aux gourmands et aux amoureux de la gastronomie, une collection exceptionnelle de 4000 menus présidentiels va être mise en vente à la fin du mois de mai, Nina.
Tout le savoir-faire français collectionné sur plus de 40 ans par le chef Christophe Marguin, des réceptions avec John et Jackie Kennedy aux nombreuses dinettes avec la reine d'Angleterre, Elisabeth II. Marie Jiquel, c'est la diplomatie dans l'assiette.
Bouchée de crevettes, mousse de dindono, gaufres glacées, 15 plats au total pour la visite du tsar Nicolas II. Impensable aujourd'hui dans les cuisines de l'Élysée. Les dîners présidentiels ne durent que 45 minutes, chrono lancé dès le premier coup de fourchette du président, le chef et collectionneur Christophe Marguin.
Celui qui a vraiment allégé la cuisine à l'Élysée, c'est le président Sarkozy. Il perdait pas beaucoup de temps à table, donc il a enlevé le fromage. C'est important le fromage. Quand on est à l'Élysée, on vend la France. Donc le président Hollande l'a remis.
Ces précieux menus nous indiquent les plaisirs coupables de nos présidents, des plus modestes, le chocolat pour Nicolas Sarkozy, la bière mexicaine pour Jacques Chirac, aux plus raffinés.
Valéry Giscard d'Estaing, qui a mangé le plus de caviar à l'Élysée, et François Mitterrand, il appréciait beaucoup le caviar et les truffes, alors qu'aujourd'hui, le caviar, c'est un menu qu'on voit plus sur les menus de l'Élysée.
Mais l'invité qui fut la plus gâtée...
On reconnaît l'importance d'un invité aux vins qui sont servis.
La reine Elisabeth II.
Château d'Yquem, Mouton Rothschild et Dom Pérignon.
L'addition un peu salée.
Oui, mais c'est pas grave, c'est le prestige de la France, on reçoit un pays ami.
La reine à qui l'on doit son choix osé pour le foie gras juste après la grippe aviaire.
Voilà, quand on aime, on compte pas visiblement quand on reçoit pour un bon dîner à l'Élysée. Marie Jiquel pour Europe 1.
Merci Nina Pavan.